Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David. Vous savez que David et moi, on est en colocation sur le micro. On le partage. Voilà. Et là, c'est mon tour, mais je lui rends après. C'est promis. Aujourd'hui, nous recevons dans l'invité du 12-13 l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Nous avons dans notre studio Pierre Dumoulin, délégué, et Cécile Dumoulin, elle aussi représentante de cette association. Bonjour tous deux. Comment allez-vous ?
Ouais, très bien.
Bien, merci. On est bien accueillis, comme d'habitude.
Très bien. Bon, on va découvrir votre association et voilà cette problématique. Bon, voilà, ce sera peut-être pas l'émission la plus gaie de l'année, mais hein, c'est la vie.
C'est la vie. C'est la vie. C'est le dernier acte.
C'est la vie. Voilà, c'est ça. Donc il faut en parler et il suffit pas. La, comment ils disent à la radio, la peur n'évite pas le danger.
Voilà.
Hein, n'est-ce pas ? C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça ne se produit pas.
Il y a beaucoup de généraux qui l'ont dit.
Oui, voilà, ils sont tous morts d'ailleurs. Très bien. On va d'abord écouter le flash info national et international et ensuite on démarrera l'émission. Pierre et Cécile, on va vous demander la tradition, c'est un petit peu d'avoir une petite idée de votre bio, une petite idée de votre vie, des personnages que nous recevons aujourd'hui. Bon, je sais que ça fait pas mal d'années que vous militez pour des tas de choses et donc vous allez nous parler un petit peu de votre trajectoire si vous voulez bien.
Eh bien voilà, moi je suis né en 42 du côté de Lille dans un petit village campagnard. J'ai fait toute ma carrière comme militaire, enfin ma carrière oui, comme militaire. J'ai quitté le Nord en gros dans les quand j'avais 20 ans et on y retournait parce que les parents et puis maintenant c'est terminé. Mmh. Nous sommes des émigrés ici dans les Landes,
oui.
Et ce, depuis l'année 91.
Ah oui, ça commence à faire.
Par contre, nous avions déjà prévu, parce que nous avions acheté une maison, une fermette en forêt landaise, dans les années 80.
D'accord.
Voilà, en gros mon parcours. Oui. Ensuite, ici, j'ai connu, donc j'étais au crématiste landais, que j'ai connu par une annonce dans le journal. Et c'est le conseil d'administration de crématiste qui m'a poussé à adhérer à la DMD, il m'a dit, toi, au moins, tu arriverais à faire quelque chose.
D'accord.
Parce que nous, on n'a plus rien.
Oui, d'accord.
Et depuis ce temps, moi, je suis à la DMD également. Mm. Voilà. Depuis les années 2000.
D'accord. Très bien. Oui, ça commence à faire
un bail.
Oui, ouais, pas mal, oui. Ben, c'est bien. Au moins, vous connaissez votre sujet. C'est rassurant. Et quelques mots, Cécile aussi.
Oui, alors, je suis l'épouse du délégué pour les Landes, du délégué de la DMD pour les Landes, depuis très longtemps, je n'ose même pas le dire. Hein. Je suis née à Lille également, et je oui. suis une émigrée, nous avons émigré ensemble.
Oui.
J'ai pris mon premier poste à Bayonne en 92,
d'accord.
En janvier 92.
Oui, et vous faisiez quoi ?
Alors j'étais psychologue clinicienne de formation,
d'accord.
Mais j'ai passé le concours des chefs d'établissement de l'École nationale de santé publique,
d'accord.
Et en même temps des chefs d'établissement spécialisés de l'éducation nationale.
D'accord.
Donc j'ai pris la direction d'un établissement pour adultes handicapés à Bayonne.
Ah, très bien.
Voilà.
Merci beaucoup. Voilà, on sait à qui on a affaire maintenant. Et on va parler de, voilà, c'est ce que je disais, voilà, un sujet sérieux, important, voilà. Il faut qu'on en parle, c'est la fin de vie. Voilà. Alors, moi, je mettrai bien entendu le lien vers votre site avec le podcast. Le site est, je dois dire, très fourni, vraiment. Et c'est pas, c'est vraiment. Non, mais il y a beaucoup de docs, etc. C'est vraiment très, très, très riche. C'est vraiment une chose très intéressante. Alors, j'aurais pu tirer des tas de citations, de phrases, mais je commencerai par celle qui dit « Si la mort est une évidence, la souffrance, elle, ne doit pas être une fatalité ». Hein, je crois que ça résume un petit peu quand même
C'est tout à fait, oui.
Voilà. Alors, on va parler donc de ADMD, hein, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous allez nous présenter un petit peu cette association qui existe à l'échelle nationale. Hein. Vous êtes délégué,
oui.
Mais c'est quelque chose qui représente beaucoup de gens à l'échelle nationale. C'est un problème qui concerne tout le monde et pas que les Landais, bien entendu. Alors, parlons de ADMD, si vous voulez bien.
Alors, je vais parler de ADMD, mais j'ai commencé par moi-même le parcours que j'ai fait pour la DMD. Bon, j'ai adhéré en 2000 dans le département des Landes où j'habite, et depuis la retraite. Je suis délégué depuis 2001, soit un an après avoir adhéré. Je me suis engagé pour défendre l'idée, pas encore acceptée par la loi, de l'aide active à mourir. Mon cheminement fut simple. La fin de vie de mon grand-père avait déjà ancré dans mes convictions l'idée qu'il arrive un moment où l'on doit pouvoir, me disait-il, poser ses valises et s'arrêter là.
Oui, très bien. C'est une belle formule aussi, qui est assez imagée, effectivement.
Bon, notre activité à l'époque où j'ai pris n'avait pas beaucoup d'activité. Notre délégation, on l'a pris, il y avait une cinquantaine d'adhérents. Nous en sommes à l'heure actuelle à 590.
Ah oui, oui, effectivement.
Mais pour cela, ça représente quand même un travail
oui.
sur le terrain.
J'imagine, oui.
Et quand on regarde en arrière, je mesure notre évolution. Les débuts furent réfléchis. Réunion publique ad hoc pour informer le réveil de la délégation. Diffusion de documentation sur les forums associatifs, où nous avions déjà nos entrées grâce aux crématistes. C'est là que j'ai pu rencontrer quelques militants déterminés qui se sont mobilisés sur leur secteur géographique. Ce noyau actif s'est renforcé, renouvelé au cours des années, et il faut remercier ces militants, car sans eux, rien n'aurait été possible. Même faiblement peuplé, notre département est très étendu.
Oui. Tout à fait. Alors, on va parler de ça parce que c'est un problème de société. Bon, de société et puis aussi un petit peu d'actualité, même si justement son actualité n'avance pas assez en ce moment. Il y a eu une convention citoyenne, on en a parlé, il y avait des lois qui étaient un petit peu dans les tiroirs. Et puis tout ça s'est arrêté à cause de cette fameuse dissolution. Et bien voilà, oui. Bon, c'est tous les problèmes politiques. Qu'on est la France, il y a certaines choses qui sont mises. Mais en attendant, les gens, il y a des gens qui souffrent.
Qui souffrent, voilà. Et qui attendent.
Voilà, ça, et c'est ça qui est vraiment le problème fondamental. Donc, voilà, on va parler de ce fameux droit à mourir dans la dignité. De quoi parle-t-on Parce que il y a des mots qui viennent à notre esprit de suite. On va penser à suicide, fin de vie, etc. On a tout un melting pot d'expressions qui sont à connotation culturelle, religieuse, avec une sensibilité qu'on n'a pas. Parlons de ça.
Quand nous parlons de fin de vie, ça concerne aussi bien des soins palliatifs que pour les personnes qui le veulent, qui disent. La vie ne vaut plus un clou, et bien qu'ils puissent s'arrêter. Il faut penser à ceux qui ont la maladie de Charcot,
voilà,
ou d'autres genres de ces maladies dégénératives. Il y a des gens qui disent, ben voilà, moi c'est fini. Il y a des gens qui se sont été se noyer dans le lac de Christus, avec leur fauteuil.
Oui, oui, ça c'est un peu moche.
Voilà. Voilà ce qu'est la fin de vie. Maintenant, ça a été pris de telle manière... Avant la dissolution, on était arrivé à un projet de loi qui tenait la route. Il y avait quelque chose à changer pour nous.
Oui, bien sûr.
Parce que nous, il y avait beaucoup de choses que l'on voulait. Mais il tenait la route. Là, on nous a coupé la loi en deux. On a séparé soins palliatifs et fin de vie, euthanasie ou mort assistée.
Oui.
En gros, c'est la même... La même chose.
La finalité est la même.
La finalité est la même, voilà. Et voilà. En plus, qu'est-ce qu'il y a là? C'est que maintenant, on commence déjà à nous enlever les directives anticipées pour cette fin de vie. Elles ne sont plus reconnues. Des tas de petites choses comme ça qui se greffent. En plus, cette loi, on va l'attendre, je pense, assez longtemps, pour la simple et bonne raison que maintenant, il faut qu'elle aille au Sénat.
Oui.
Et c'est pas un long fleuve tranquille, ce passage.
Non.
C'est très long.
Oui, mais oui, c'est ça. Oui, oui, alors, cette histoire de fin de vie, voilà, il faut qu'on parle, on va parler d'un mot tabou, c'est le mot suicide. Alors, il y a une différence entre le suicide, comment dire, d'une personne en bonne santé. Enfin, si c'est suicide, c'est qu'elle n'est pas forcément en bonne santé. Enfin, quelqu'un qui n'est pas en état de santé, qui va bientôt décéder. Voilà, ça c'est bien sûr, c'est des gens qu'il faut aider, et bien sûr, pour pas qu'ils se suicident. Mais effectivement, là, on parle des gens qui savent, parce qu'on le sait tous. Encore une fois, c'est difficile à accepter pour soi ou pour ses proches, qui sont effectivement sur le quai du départ et qui veulent éviter une forme de déchéance ou de souffrance pour eux-mêmes et pour leur famille
et pour
aussi.
Et pour leur famille. Maintenant, quand on parle de suicide, on parle là de suicide assisté.
Voilà, bien entendu.
Mais il est évident qu'il faut quand même qu'un médecin donne l'ordonnance pour avoir les cachets.
Oui, oui.
Il faut quand même suivre cet homme de manière... à ce que ça ne soit pas parti ailleurs.
Oui, bien sûr.
Ça soit
oui,
employé
oui.
à d'autres fins.
Mmh, mmh, mmh.
Après, bon, il y a le suicide par euthanasie, ça c'est les sorts en général, quand on sort de réanimation, quand il n'y a plus rien à faire.
Oui.
Bien souvent, ce sont des euthanasies, parce que c'est des patients qu'on a débranchés.
Oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait, oui.
Pour regarder les choses en face.
Oui, oui, oui. Mais oui, tout à fait. Alors, il faut faire effectivement la différence entre euthanasie et suicide assisté. L'euthanasie, donc, c'est un médecin qui administre lui-même l'acte qui va donner, mettre fin à la vie du patient. Et le suicide assisté, ben, c'est la personne elle-même qui pourra s'administrer, si elle est consciente qu'elle peut le faire, un cachet ou quoi que ce soit. Voilà.
Exactement.
Donc, c'est elle qui fera le geste final. Et bien sûr, le but du jeu, là, c'est que ce soit encadré, que ce soit pas n'importe quoi, on est bien d'accord. C'est ce qui fait peur, je crois, à beaucoup de gens, c'est que ce soit un peu le robinet ouvert à n'importe quel excès ou je sais pas quoi. Alors, bien entendu, on parle de quelque chose d'encadré par une loi, dans un milieu médicalisé, etc. C'est sérieux, là, c'est pas juste débrouillez-vous, faites ce que vous voulez.
Voilà, exactement. Ensuite, le médecin qui a donné cette euthanasie, hein, qui a donné donc une mort douce, il y aura quelques temps après, il a un compte-rendu à faire.
Bien sûr.
De manière à vérifier si...
Des comptes à rendre, quand même.
Voilà.
Oui.
Que tout s'est bien passé.
Oui.
Ça, c'est un peu une copie, il faut lire la loi belge.
La loi belge.
Oui, voilà.
C'est la meilleure des choses.
Oui, c'est vrai. Oui.
Hein,
oui.
C'est eux, soins palliatifs, fin de vie, c'est pareil.
Oui, oui, oui.
Et dans le même hôpital, on pratique les deux.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Mais
le choix, c'est toujours la personne qui est couchée.
Ouais. Voilà.
C'est elle qui a décidé, c'est elle.
C'est sa vie.
Qui, à travers, éventuellement, la personne de confiance qu'elle a désignée, hein, parce que là, on aborde encore un autre pro.
Oui,
la personne de confiance.
On va parler après de ça.
Il faut absolument qu'elle décide, qu'elle donne les éléments.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Oui, je voulais intervenir par rapport à la loi belge qui vraiment, qui devrait être pour nous un exemple.
Un exemple
parce
à suivre.
Que, alors, je suis belge.
Très bien.
Je suis bien placée pour en parler. C'est une loi qui est très, très cadrée. Et pourtant, les Belges, croyez-moi, c'est un pays foncièrement catholique. Hein.
Oui, oui,
et pourtant, ils ont réussi à faire une des meilleures lois qui existent en Europe. Mais seulement, on peut aller en Belgique, comme avant les femmes allaient avorter en Belgique
c'est
ou en Suisse.
Oui.
On peut aller en Belgique, mais figurez-vous que les médecins belges en ont assez de voir arriver les Français.
Oui,
hein.
Je
euthanasie en Belgique, on ne veut pas devenir le mouroir des Français.
Tout à fait, oui,
voilà.
C'est vrai.
Alors, il y a un médecin qui observe que depuis le lancement de la Convention citoyenne en France, ils ont reçu davantage de demandes de Français. Ben oui, ce débat semble remuer les gens dans leur conscience. Mais ils n'ont plus de place, ils ne veulent plus. Hein, ils ne prennent que les riverains.
Oui. Ben, je comprends
si
bien.
Si on a un domicile à Lille, ce qui est presque notre cas. Bon,
on n'est pas loin, hein, de Lille.
Ça pourra aller, quoi. Hein. Mais les médecins belges disent on n'est pas insensible aux souffrances des patients.
Très bien. Merci beaucoup. C'est un sujet complexe et délicat,
oui,
mais on va essayer de l'aborder avec légèreté. On va faire une première pause, on va écouter un petit peu de musique. Hein, ça va nous alléger un petit peu l'esprit.
Le temps.
Et on va, bien sûr. Et on vous retrouve pour la suite de cette émission. Nous retrouvons Pierre et Cécile donc de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors on va redéfinir un petit peu vos actions. Comment est-ce que vous fonctionnez? C'est quoi exactement un DMD? Je crois qu'il y a notamment une permanence téléphonique.
Exactement, oui. Mais la DMD a été créée en 1980. Au 1er juillet 2025, elle avait près de 82 000 adhérents actifs. Sa revendication porte sur l'accès universel aux soins palliatifs, ainsi que sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, regroupés sous le vocable d'aide à mourir ou d'aide active à mourir. Bon, la DMD est composée, je vais abréger, 14 personnes, 120 délégations et des commissions soignantes, des commissions médicales. Et depuis un arrêté du 11 août 2006, la DMD désigne des RU, c'est-à-dire des représentants des usagers auprès des établissements.
D'accord.
La solidarité et l'entraide occupent une place importante dans l'action. Elles aident à l'application des lois en vigueur, défendent les droits des personnes malades et des personnes en fin de vie, renseignent sur les lois qui existe dans les pays qui ont légiféré, intervient comme médiatrice avec les médecins français et comme médiatrice, bien sûr, avec les médecins belges. Les jeunes de la DMD font aussi une certaine propagande avec un quart publicitaire, passant faisant le tour pendant les vacances.
D'accord.
L'action de la DMD, c'est une celle d'une association politique, laïque et citoyenne, mais aussi apartisane.
Apolitique, on n'a pas entendu.
Apolitique, oui. Et oui. Ah oui, c'est pas une association politique.
Non, pas du tout. Pas
ouais, d'accord. Et donc vous avez, je crois, une permanence téléphonique aussi. Alors comment ça se passe? C'est donc des gens qui c'est qui vous contacte et dans quelles circonstances?
Cette permanence téléphonique est ouverte à tous. Ce sont des volontaires de l'ADMD. Bon, c'est plus des gens qui habitent Paris.
Mmh.
C'est dans les locaux de l'ADMD, dans ses bureaux. Et ils prennent toute communication sur la fin de vie. Souvent, ce sont des gens qui demandent où pour aller en Suisse ou comment on peut faire pour régler tel problème. C'est-à-dire les problèmes, il y en a quand même encore beaucoup. Hein, on ne veut pas laisser sortir de l'hôpital. On veut que ceci, qu'ici, nous décharge. Il y a des tas de petits problèmes comme ça.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, quelquefois, bon, ça arrive chez moi, direct. Hein, en général, on règle ces problèmes-là.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'on a encore parlé de la Belgique, de la Suisse, effectivement, alors, parce que ça a été une hypocrisie. Moi, je retrouve un petit peu la trajectoire qu'il y a eu avec l'avortement.
Hein, oui.
C'est un peu la même problématique. Hein, à un moment donné, il n'y avait pas moyen de se faire avorter correctement en France, donc il fallait aller ailleurs.
Voilà.
C'est un peu ce qui s'est passé pour la fin de vie. Parce que, alors, on va parler rapidement de noms qui se ressemblent. Hein. C'est Vincent Lambert et Humbert.
Hein,
parce que ce sont deux cas qui ont défrayé la chronique, pas tout à fait à la même époque, mais qui ont fait prendre en compte à la société cette problématique de fin de vie avec « oui, moi je veux bien qu'il meure, non, moi je veux qu'il reste au détriment du bien-être et de quelqu'un ». Donc ça, parlons-en un petit peu, parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après dans la société française.
Il y a eu un avant et un après, hein, Vincent Humbert. Déjà, Vincent Humbert, il a déjà déclenché pas mal d'actions. D'action, puisque un médecin avait pris parti pour donner la potion, enfin pour augmenter la potion magique après sa mère. Il a été condamné.
Oui.
Il a été gracié, enfin pas gracié, mais.
Il y a eu un non-lieu.
Il y a eu un non-lieu.
Oui.
Hein. Oui. Cette action a déclenché aussi une autre action après. C'est-à-dire qu'à Périgueux, à l'hôpital, il y a eu une infirmière. Et un médecin, tous deux parents de quelqu'un qui était dans l'hôpital, et qu'ils ont aidé à mourir. Donc là, eux aussi ont été en procès.
Oui, bien sûr.
Et la DMD a encerclé le tribunal.
D'accord.
Ah oui,
c'est pas violent, parce que
oui,
vu l'âge que l'on a tous.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà.
Ah oui, bon, d'accord, donc vous avez fait une action militante.
La DMD, avec toutes ces actions militantes, là, a pris beaucoup d'ampleur, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a démarré, on était 20 000, je crois, oui, 20 ou 22 000. On est quand même, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 820 000.
Oui, voilà, oui. De toute façon, c'est un problème...
82 000, oui.
C'est déjà bien. Hein.
C'est un problème, de toute façon, qu'on ne peut pas nier. Hein,
voilà,
c'est vrai qu'il faut s'emparer de ce problème avant que de se retrouver victime soi-même et dire, ben mince... Voilà, ben c'est déjà le moment de faire notre deuxième petite pause. On va écouter un petit peu de musique et le flash info local. Et on trouve nos invités pour la suite de cette émission. Et nous voilà de retour. Alors, on en a parlé un petit peu, on a abordé ce sujet, les directives anticipées. Alors, on va dire ce que c'est, hein, parce que tout le monde y est confronté un jour, que ce soit pour soi, même pour une petite opération, n'importe quoi, ou pour un proche. Parlons-en, parce que c'est important, c'est là que ça se passe, en fait, tout ça.
Ah, pardon.
Oui,
c'est très important.
Oui.
C'est très important. Les directives anticipées, mais il faut faire très attention aussi. Vous faites des directives anticipées avant, bien avant, non pas parce que vous êtes malade, non pas parce que vous rentrez à l'hôpital. C'est une autre directive. Les directives anticipées, c'est vous vous cassez la figure en voiture, vous avez vos directives sur vous, hein, le médecin... urgentiste qui va venir pour te soigner, il va savoir la position à prendre, éventuellement le couper. Vous avez également dans ces directives anticipées, se joint une personne de confiance.
Oui.
Cette personne, c'est aussi très important. C'est elle qui va vous défendre. C'est elle, si vous la désignez en même temps comme mandataire de santé, hein, en même temps que les directives anticipées, pourra demander au médecin votre livret médical et vous faire changer de médecin. Voilà, maintenant, il y a deux sortes de directives anticipées, parce que les médecins, eux, disent, quand vous rentrez à l'hôpital, « Ah oui, mais nous, les directives anticipées, savoir si on coupe tel morceau, si on peut pas... Si » Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vos directives générales que vous avez faites au départ, elles vont être annulées si vous signez une deuxième directive anticipée. Ou alors dessus, sur ces directives que vous allez donner pour le médecin, et il faut marquer dès le début, mes directives anticipées précédentes remises ici soient prioritaires.
D'accord. OK. Alors ces directives anticipées, bon, on va préciser ce qu'il y a dedans aussi. Ça dit quoi exactement ? Qu'est-ce que ça dit, les directives anticipées ?
Les directives anticipées, ça dit, voilà, je veux telle chose. Je ne veux pas être réanimé dans le cas où je serai impotent.
Oui.
Ça peut dire après, je veux telle chose, je veux pas être transporté à l'hôpital, je veux que ça soit arrêté. C'est surtout ça.
Mourir à la maison, oui.
Je veux mourir à la maison, je veux après être incinéré, je veux.
Alors,
toutes ces petites choses.
Vous disiez en les avoir sur soi. Bon, moi, j'avoue que je n'ai pas mes directives anticipées sur moi dans ma poche tous les jours, j'avoue.
Alors, vous devriez.
Et voilà, alors du coup, voilà, c'est quel conseil donner aux auditeurs alors, est-ce qu'on le met sur mon espace santé ? Oui, enfin, ce genre de choses pour que les médecins traitants ils aient accès automatiquement. C'est quoi le conseil par rapport à ça ?
C'est le mettre sur le bulletin santé, sur la carte santé.
D'accord. Et parce que...
Absolument.
Oui.
Et il faut que la personne de confiance également à joindre à ces directives anticipées, ça va ensemble.
C'est très important.
C'est très important.
C'est cette personne qui va faire en sorte que ça se passe bien comme c'est prévu, comme vous le souhaiteriez. Si vous êtes inconscient, vous ne pouvez pas parler.
Voilà, c'est ça.
Mais sachez que la personne de confiance peut accompagner avant, même quand il n'y a pas d'hospitalisation ou autre chose, à tout rendez-vous médical. Elle a le droit, c'est inscrit dans la loi.
Elle
peut accompagner la personne qui va en consultation, même, voyez-vous.
Oui, tout à fait. Alors, vous voulez qu'on parle aussi de la déclaration du pacte progressiste fin de vie.
Maintenant, bon, vous allez conclure avec ça. Est-ce qu'on en est à la conclusion ?
Ah non, pas encore.
Ah bon.
Non, je vous donnerai je vous donnerai le feu. On n'est pas encore à la fin de l'émission, non ?
Non. Mais si vous voulez, mais il a peut-être encore d'autres choses à dire, parce que moi, c'est un peu mon dada, n'est-ce pas ?
Alors... Oui, mais c'est... On a tous nos dadas, on est là pour parler de tout ça. Hein, parce
il
que
va
c'est,
vous lire quand même le cheminement de la loi, je pense que
cette loi n'a pas pu être votée, parce que la vie d'un texte de loi au Parlement n'est pas un long fleuve tranquille.
Non.
Déjà, dans les passés lointains ou plus récents, nous avons connu de graves désillusions. En 2016... Alors que nous aurions pu avoir une loi de liberté votée au Parlement, nous avons eu la loi Clé-Leonetti, dont il est nul utile de rappeler combien elle est insuffisante pour répondre au drame de fin de vie. Pardon. En 2022, une convention citoyenne se réunissait sous l'égide du Conseil économique, social et environnemental. Elle concluait 4 mois après, en avril 2023, à la nécessité de légiférer en matière d'aide active à mourir. Ce texte a mis ensuite un certain temps. Depuis, le texte, notamment son parcours à l'Assemblée nationale, commission spéciale, séance publique, 9 juin, dissolution de l'Assemblée. Ça réduit à néant des dizaines d'heures de débats rugueux, mais constructifs, respectueux des différences. Cette décision provoqua l'abattement, l'écœurement chez celles et ceux qui n'avaient plus le temps d'attendre, qui comptaient sur une loi respectueuse de leur volonté pour leur épargner les souffrances inutiles et les tragédies absurdes. La loi... attendue en février 2025, alors a été présentée sous deux formes, deux propositions de loi. Elle a changé. Le caprice, la première relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, et la seconde relative au droit à l'aide à mourir.
de nouveau un événement politique, la censure du gouvernement cette fois, emporta le calendrier et avec lui le désespoir. Pourtant, malgré tous ces aléas presque inédits et sans doute grâce à la ténacité de la présidente, le 27 mai 2025, une très large majorité des députés, 305 voix pour, 199 contre, l'Assemblée nationale adopta un dispositif, certes incomplet en matière de fin de vie, mais qui ouvrait néanmoins la porte à la la poursuite de la navette.
Très bien. Allez-y, buvez un peu d'eau. C'est pas grave. Une chose qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a eu, des sondages, hein, IFOP et tout, puis on a demandé l'avis aux gens, on sait, parce qu'on parle d'une loi et tout, mais on connaît un petit peu l'avis des gens, on sait que les gens sont globalement, ils sont pour cette loi sur la fin de vie. C'est pas juste une lubie, hein, c'est que ça représente aussi la volonté du peuple.
C'est 82%, 85% chez les médecins, il y a 75% des médecins qui sont pour.
Oui, ils sont en première ligne, ils le savent.
En première ligne, ils savent très bien de quoi ils parlent.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Sachant que des fois, des médecins, sans pouvoir le dire rien, des fois, ils font des choses, voilà.
Quelquefois, le font. Oui. Alors, chez les oncologues, c'est l'arrêt des soins, c'est tout, c'est courant.
Oui, ben oui.
Hein, parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un qui est en train de s'étouffer et qui va mourir étouffé.
Oui, c'est ça, voilà. Ouais, hein. Oui.
Donc, ça se pratique, on le sait, mais...
Voilà. Il faut éviter cette hypocrisie, justement. Il faut voir les choses en face. Hein.
C'est cette hypocrisie constante.
Oui.
Okay.
Oui. Et puis, il ne faut pas que le médecin il puisse être mis en danger légalement, qu'on puisse l'attaquer, alors que lui, on est bien d'accord. On ne parle pas des gens un peu fous qui vont décider de mettre la fin des vies aux gens.
Voilà,
comme ça,
c'est exactement ça. Bon, en général, ils ne prennent pas les décisions seuls.
Oui, voilà, sur la famille, etc.
Sur la fin de vie, il y a... Il y a un réanimateur, il y a un médecin qui suit. Ils prennent ensemble la décision.
Oui, bien sûr. Ce serait fâcheux qu'ils soient justiciés.
En plus, il suffit dans une opération de ne pas réanimer.
Oui, voilà, tout à fait. Ouais.
Et puis, c'est tout, la vie est terminée.
Tout à fait. Alors, donc, ces directives anticipées, donc, j'en reparle. Donc, il serait sage d'en avoir un exemplaire sur soi dans son portefeuille ou ce genre de choses ? Comme la carte de groupe sanguin, en fait.
Il vaut mieux, oui.
Oui, comme la carte de groupe sanguin ou comme quoi vous êtes
donneur de dons d'organes. Et les dons d'organes, tiens, parlons-en.
Les dons d'organes doivent être aussi.
Oui, voilà.
C'est pas trop ma spécialité.
Oui, non, mais
il vaut mieux l'avoir sur soi.
Oui,
c'est pareil.
Par défaut, je crois, sauf mention contraire, on considère maintenant que quelqu'un qui décède et donne ses organes.
Alors ça, c'est très bien, c'est la loi.
Oui, c'est la loi. Oui.
Mais ce n'est pas ce qui est appliqué.
Ah mince.
Ça, je peux vous dire jamais. Les médecins, avant de faire, par exemple, une transplantation directe, parce qu'il faut que ça soit frais, l'organe, il faut que ça soit en bon état, demandent toujours à la famille.
Oui.
Et chez eux, c'est quelque chose d'implanté.
Oui. Et nous voilà la dernière partie de notre émission. Alors, on avait commencé à en parler tout à l'heure, de cette déclaration du pacte progressiste de fin de vie.
Voilà, alors je vais vous en parler parce que je trouve que c'est bien et je suis adhérente à plusieurs des associations qui y participent. Alors, ce pacte progressiste sur la fin de vie s'est mis en place en 2023 à l'initiative de la DMD et de la MGEN. 30 organisations de la société civile ont décidé de s'allier pour constituer une force progressiste et républicaine afin de faire évoluer le cadre légal sur la fin de vie, avec une ambition forte, que chaque personne soit effectivement égale en droit et libre de ses choix. De par l'hétérogénéité des organisations qu'il fédère et de par sa position, le pacte progressiste sur la fin de vie entend dépasser les oppositions souvent montrées du doigt. Les soins palliatifs et l'aide active à mourir sont complémentaires et non antagonistes. Pour les organisations membres de ce pacte, il est nécessaire que la capacité des patients à exercer leur liberté de choix soit enfin reconnue. Ces organisations de composition et d'horizon très divers se retrouvent sur la base de valeurs et de convictions communes. Elle représente au total plusieurs millions de Français, qui donc peuvent être une force décisionnelle. Des membres, des adhérents, des militants ou des clients, hein, parce qu'il y a des mutuelles, des clients de ces différentes structures.
D'accord.
Alors, il y a une liste de 30 organisations.
Oui.
Ce sont des d'horizons très différents, mais qui partagent la vision d'une société qui donne toute sa place à la liberté de conscience, la solidarité, citoyenneté, émancipation et la laïcité, ne l'oublions pas.
Oui, bien sûr, la laïcité dont on va parler demain. Hein. On va en parler avec LMA et la Ligue des droits de l'homme. Et on va parler de ce fameux 9 décembre qui sera le jour de la laïcité. Et on en parlera aussi le 9 décembre avec quelqu'un de Laïcité 40. Hein, voilà, donc c'est vrai que ce sont des valeurs qui se recoupent, hein, en fait.
Qui se recoupent et qui sont complémentaires.
Oui,
en
bien
fait,
sûr.
Hein.
Oui. Oui,
mais
voilà.
Laïcité et liberté, qui est la tête de notre devise, laïcité et liberté vont de pair.
Bien sûr, oui.
Je ne vais pas dire que c'est le même mot, mais si l'un sans l'autre, il marche, ça ne fonctionne pas.
Oui, c'est la liberté pour soi et pour les autres.
Et
pour les autres, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà, on va en parler longuement demain. Alors, qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, est-ce que vous avez une actualité? Est-ce que vous avez des événements qui sont affiliés à votre association, des manifestations ou quelque chose de particulier dans les jours qui viennent?
Pour l'instant, on a tendance à se reposer un peu. Là, on est quoi? On est en...
Bon, après, de toute façon...
La trêve des confiseurs.
Oui, la trêve des confiseurs.
Oui. Oui, oui.
Mais la prochaine action, ça sera certainement la distribution de flyers sur les marchés.
Sur les marchés.
D'accord.
C'est ce qu'on fait en gros tous les ans. Bon, ensuite d'activités, on aura les forums d'association au mois de septembre.
Ça, bien sûr, oui.
Voilà. Sinon, bon, on reste, nous, en permanence, on l'écoute.
Hein. Oui, mais bien sûr.
C'est-à-dire qu'on peut nous appeler n'importe quoi.
Oui, Pierre, il y a quand même la journée mondiale aussi au début novembre, je vous ai donné.
Oui, qui est passé là.
Ça, c'est un événement.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui,
un événement phare.
Oui, avec encore beaucoup de monde. Alors, comment ça se passe? Vous parlez des marchés, etc. Comment est-ce que les gens vous reçoivent si vous venez vers eux, qui vous leur parlez de ça? Quelle est la réaction des gens?
En général, on est bien reçu.
Oui, c'est vrai.
On est bien reçu. Alors, on publie dans la presse une information, on sera à telle date, à tel endroit, alors avec des militants. Et ben, on leur saute dessus, faut le dire, en disant que nous nous occupons d'une mort digne, sans souffrance. En général, ça les interpelle. Mais alors, ce que j'ai remarqué, moi, à Cabreton, par exemple, il y a une forte audience auprès des jeunes. Et ça, c'était tout à fait inattendu.
Oui, c'est vrai.
Et ça mais c'est vrai qu'on a fait passer le bus des jeunes, le bus qui sillonne les plages, de trois fois à Cabreton. Et vraiment, c'était sur le port, là, à la capitainerie du port. Et donc, on a été assaillis, il faut le dire. Mais ce sont des jeunes qui font l'action. C'est un bus avec les jeunes de la DMD,
bon,
puisqu'il y a une section. C'est très bien.
Oui.
Ils font le tour de France des plages.
Eux, de toute façon, alors eux, quand ils font leur action, parlent énormément de directives anticipées.
Oui, voilà.
Parce que je pense que c'est la principale chose que l'on a fait.
Et oui, c'est ça.
Et c'est que l'on doit expliquer aux gens, parce que les gens n'arrivent pas très bien, parce que c'est mal perçu au départ par les médecins, par certains personnels médicaux, pour la simple et bonne raison que ça leur enlève une certaine liberté.
Ah oui,
c'est un peu de pouvoir, dirons-nous.
Un peu de pouvoir.
Mais là,
le pouvoir de la blouse blanche.
Oui, c'est ça. Bon, Pierre et Cécile, merci beaucoup d'être venus nous parler de ce sujet délicat. Hein, voilà,
on ne sait pas toujours comment en parler, donner la parole, c'est gentil.
Voilà. Donc, bon, on essaye en général d'être un peu plus lumineux et gai, mais bon, ça fait partie de la vie. Et voilà.
Ben, oui.
Il
n'y
a pas de raison que la fin du repas gâche tout ce qu'il y avait avant. N'est-ce pas?
Mais absolument, voilà. Absolument. Et pour nous, ça nous fait quand même connaître et mieux connaître.
Bien sûr. Ouais. Et on connaît votre combat et on sait qu'il n'est pas fini et qu'il nous concerne à tous. Et ça, alors là, s'il y a bien une chose démocratique, c'est la fin de la vie. Ça touche tout le monde. Son âge, que ce soit son âge, son sexe, son origine ethnique, peu importe. Voilà, c'est la grande égalisatrice, la grande faucheuse. Voilà, merci à tous les deux d'être venus et à bientôt. Et puis, bonne chance dans votre combat. Merci beaucoup, au revoir.
Ah oui, bonne chance, oui.
Au revoir.